Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici ensemble pour la suite de ce texte de Charles Juliette Lambeau. Elle te pousse à bien travailler. Pour elle et pour toi, t'explique-t-elle, il est important que tu décroches de bonnes notes et obtiennes régulièrement une permission de sortie. Tu travailles avec toute l'énergie, l'application, la ferveur dont tu es capable, et chaque dimanche tu la retrouves. Souvent tu es cafardeux et elle te console, te demande d'être patient, te fait miroiter l'avenir qui t'attend. Ou bien elle s'épanche, se délivre de sa souffrance, et en quelques mots haletants, c'est toi qui tentes de lui remonter le moral. Ainsi, à ton insu, est née entre vous une affection qui s'est très vite muée en un sentiment plus tendre. Un jour, elle te prend dans ses bras. Atterré et ébloui, tu t'abandonnes. La suit avec stupeur sur le chemin qu'elle te fait découvrir. Lourd d'un inavouable secret. La rejoindre, l'aimer à nouveau. Mais tu n'es admis à sortir le dimanche que si tu obtiens de bonnes notes. Or, comment te concentrer et travailler alors que tu ne cesses de penser à elle, alors que le désir, ce qu'auparavant tu ne connaissais pas, a pris possession de toi et ne te laisse aucun répit. Sur la page que tu lis, c'est son visage qui apparaît. Et quand le professeur fait son cours, c'est sa voix à elle que tu entends. Cette voix qu'elle a eue à l'instant où tout a chaviré, une voix sourde, blessée, appelante, laissant croire qu'elle allait défaillir. Et comment éviter que ton désir et le bonheur de savoir qu'une femme t'aime ne soient corrodés par une lancinante culpabilité? Le chef est sa confiance et son amitié. La mère à laquelle tu penses si souvent et qui te semonce te rappelle que tu as reçu une éducation religieuse, que tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas. Tu mourrais de honte si elle savait. Écartelée, pris dans une bourrasque qui te jette brutalement en pleine crise d'adolescence, ajoute maintes questions à celles que tu te posais déjà, fais soudain se craqueler ton enfance. Tourment, fissure, le sentiment que la vie n'a qu'une seule face et qu'elle est sombre. Ainsi l'ennui, comme si une sorte de grisaille s'était déposée sur les êtres et les choses, avait tout envahi. L'impossibilité de participer, de t'intéresser à toi-même et à ce que sera ton avenir, il t'apparaît ô combien vain de travailler, de lutter, de faire tant d'efforts, puisque la mort pourrait t'abattre d'une seconde à l'autre, et que tout pour toi s'effondrera un jour. Ainsi la solitude, cette irruption de l'angoisse lors des premiers jours passés dans cette caserne, la mère et les sœurs n'étaient plus là pour te guider, décider pour toi, t'entourer d'affection. Désormais, tu ne pouvais plus compter que sur toi-même et tu te sentais perdu. Maintenant, ce lourd secret. Auprès de qui t'en délivrer et prendre conseil? Doit-on céder à ton désir ou écouter la voix de cette culpabilité qui te presse de demander à cette femme de tout arrêter là ? Ainsi, les humiliations, des injures et des menaces qui créent des ravages. Ce besoin chez tel sous-officier de blesser, d'écraser, de t'atteindre au plus profond, de lacérer ton être, de plonger la lame à l'intime de ta pulpe. Après, pendant des jours, la blessure saigne, tu ne peux penser à rien d'autre et incapable de parler. Une blessure qui te souille, t'avilie, et qui, en te dépouillant de ta dignité, t'a persuadé que tu étais minable. Ainsi les coups de cafard. Des éboulements à l'intérieur de l'être. Rien ne semble plus possible. Une seule issue, renoncer. Déposer les armes. Ces jours où tu broies du noir, où hébété de souffrance, tu ne comprends rien à rien, où ta vie de jeune militaire te paraît littéralement insupportable. Ainsi les révoltes. Mais des révoltes étouffées. Car tu as très tôt compris que si tu te dressais pour dire non, tu serais brisé, et que ta vie ne serait plus qu'une infernale descente aux enfers, des révoltes qui vont jusqu'à te donner des envies de meurtre, mais que tu réprimes avec violence, de peur qu'un jour elles ne te poussent à commettre un acte inconsidéré. Puis, quand le calme revient, ce désir de fuite, de partir loin, de marcher sans fin sur les routes. Mais toujours en toi vibre cet amour de la mer, un amour qui te soutient, t'enjoint de tenir, de te montrer docile et courageux, de lui témoigner ta gratitude en veillant à ne rien faire qui pourrait la peiner. Toutefois, durant cette année, alors qu'en raison des circonstances, elle a eu un surcroît de travail, elle t'a peu écrit. Ton attente angoissée à chaque rapport lors de la distribution du courrier. Le sous-officier qui égrène les noms des heureux et à la fin, quand la dernière lettre a été remise, à l'appel de son nom, sortir des rangs, se précipiter vers le sous-officier, se figer au garde-à-vous à deux pas, saluer, avancer d'un pas, reprendre la position du garde-à-vous, tendre la main droite pour se saisir de la lettre, faire un demi-tour réglementaire, puis, en quelques pas rapides, enjambé, regagner sa place à l'intérieur de sa section. Mais si l'élève n'est pas assez prompte, il arrive que l'enveloppe soit jetée à terre. Ta déception qui assombrit le restant de la journée. Dès que vous vous retrouvez au réfectoire, tu te mets en quête d'un bon copain qui consent à te laisser lire la lettre qu'il vient de recevoir ou en échange de quelques desserts, accepte que tu la gardes après qu'il en a pris connaissance. Cette année, elle t'a peu écrit. Tu peux facilement te représenter tout ce qu'elle a à faire, ses graves soucis, la difficulté qu'il y a à prendre la plume lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Tout cela, tu peux sans peine te le figurer. Mais un fait demeure. Cette année, elle t'a peu écrit. À certains moments de détresse, tu te mets dans la tête que tu l'as déçue, qu'elle t'a retiré son affection, qu'elle va bientôt t'abandonner. Cette idée, tu la combats. Mais quand elle s'impose à toi, tu pourrais presque te mettre à hurler. Ta vie est rigoureusement cloisonnée. Quand tu es de retour dans ta famille, notamment aux vacances de Pâques et d'été, tu quittes ta tenue et te retrouves le lendemain derrière les vaches. Sans transition, tu cesses d'être un enfant de troupe pour redevenir un paysan. Et tu ne peux parler à la mère ni aux sœurs de l'existence que tu mènes à ton école. Pour elles, qui ignorent tout ce en quoi consiste la vie militaire, ce que tu pourrais raconter ne signifierait rien. d'un jour à l'autre, tu dois donc oublier les pensées, préoccupations et manières d'être qui étaient les tiennes, adopter d'autres comportements, veiller aussi à bannir de ton vocabulaire les nombreux mots d'allemand et d'argot qui émaillent la langue fort particulière dont vous vous servez pour communiquer entre vous à la caserne. À redécouvrir avec un œil déshabitué ce monde où s'est déroulée ton enfance. Le village, la ferme, avec ses odeurs et ses bruits, les membres de ta famille, les voisins, le chien, les vaches, la charrue, la faucheuse. Entendre la mère et le père parler en patois, tout te paraît singulièrement étrange. Lorsqu'un nouveau trimestre te voit revenir à l'école, la mutation à laquelle tu dois te prêter s'effectue en sens inverse. Mais c'est surtout à la rentrée d'octobre que le choc est le plus violent. Au long des grandes vacances, tu es redevenu un civil. Tu as oublié, sans avoir à t'y contraindre, les gueulantes des sous-officiers, les revues de casernement, la crainte permanente d'être puni. Et le jour de la rentrée, revêtant ton uniforme, il te faut le soir même te glisser dans la peau d'un personnage dont tu t'étais désaccoutumé. Tout ce qui t'a occupé pendant ces mois d'été, tu as dû l'abandonner en franchissant le seuil du poste de garde et sur le champ te laisser réinvestir par tout ce qu'implique ta vie d'enfant de troupe. Mais bien que perturbé, tu retrouves très vite tes réflexes, tes habitudes, ton souci de ne pas te faire remarquer. En passant inaperçu, il t'est plus facile de te soustraire à certaines obligations, de prendre de menues libertés avec la discipline.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles Juliette, Lambeau. Et c'est de vie, celle que tu mènes dans ton village et celle que tu endures à la caserne, tu n'en dis rien à la femme du chef. Tu as décidé une fois pour toutes que l'entretenir de ce que tu fais ne pourrait que l'ennuyer, que des propos aussi triviaux ne réussiraient qu'à ternir ce qui s'est tissé entre vous. Aussi demeures-tu le plus souvent silencieux. Un jour, elle te reproche ton mutisme, te presse de te confier à elle, te laisse incrédule en t'apprenant que tout ce qui te concerne l'intéresse. Elle t'étonne aussi en remarquant que ce que tu ne sais ou ne veux dire avec des mots, il arrive que ce soit ton regard qui l'exprime. Dans 2 jours, tu auras 15 ans. L'avant-veille de la rentrée, tu rends visite au père de la montagne qui est maintenant un paysan et possède quelques vaches. Lors des 3 années précédentes, tu as parcouru à pied ces 12 kilomètres. Constamment la peur. Et plus encore, quand tu devais prendre les raccourcis à travers bois. Mais cette année, tu as pu emprunter un vélo à l'une de tes sœurs. Comparé à ton village, qui fait figure de petite ville, son usine de soierie, sa rue qui s'anime 4 fois par jour, ses magasins, ses cafés, son médecin, sa pharmacie, son haut clocher, l'imposant édifice de la mairie et des écoles, la place avec 10 platanes, les châteaux sur les collines environnantes. Ce village te paraît désert et triste. À peine viens-tu d'arriver que tu n'as d'autre désir que de t'étaler au plus vite. Tu n'oses entrer dans la grange, car si tu frappes à la lourde porte de bois, ils ne peuvent t'entendre. Or, ils te répugnent de pénétrer dans cette maison sans pouvoir t'annoncer. Aussi, tu restes un long moment avec ta main sur le loquet avant de trouver le courage de pousser la porte. Tu es là, debout, au milieu de la cuisine, bras ballants, dansant d'un pied sur l'autre. Tu penses à celle qui a vécu là, et qui, après en être partie, n'y est jamais revenue. Tu voudrais déguerpir, mais tu t'imposes de rester quelques minutes. Le père constate que tu as grandi et te demande si tu travailles bien à ton école. Tu profites de ce qu'il mentionne celle-ci pour expliquer qu'à la caserne, vos chambres ne sont pas chauffées, que l'année dernière tu as touché un pull en fil à manches courtes, que tu as souffert du froid et justement tu venais demander s'il serait possible qu'on t'achète un pull. La femme qui est là répond d'une voix sèche qu'il ne faut pas y penser. Qu'ils n'ont pas d'argent à gaspiller. Tu sautes sur ton vélo et te mets à pédaler avec rage, les yeux brouillés de larmes. Comme tu t'engages dans la descente, tu décides que tu ne te serviras pas des freins. Si tu te tues, ce sera la preuve que tu ne méritais pas de vivre. Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième virage, ta peur l'emporte sur sa résolution. Et chaque fois, au dernier moment, un coup de frein salvateur te permet d'éviter la chute. Mais cet autre virage se présente. Il importe que tu ne flanches pas, que tu te mettes à l'épreuve du destin, que tu saches s'il permet ou non que tu vives. Tu descends singulièrement vite. Parvenu à l'endroit qui décidera du verdict, couché sur ton vélo, tu traverses la route pour couper le virage. Mais à la sortie, alors que ta vitesse est excessive, tu poursuis tout droit et montes le long du rocher. Le pneu avant éclate, tu es sévèrement secoué et, mains crispées sur les poignées du guidon, tombant à la renverse, tu vois soudain ton vélo au-dessus de toi avec ses roues qui tournent lentement contre le ciel. Vision fort brève, qui n'a duré que le temps de ta chute, mais qui s'est gravée en toi et qui plus tard a souvent ressurgi. Tu restes inanimé sur le bord de la route. Le chauffeur d'une voiture te relève, t'aide à prendre place sur un siège, cache ton vélo derrière des bois et te descend au village. Tu as une plaie au crâne et terriblement mal aux reins. Tu expliques à ta famille que tu as voulu imiter les coureurs du Tour de France qui dévalent l'école à tombeau ouvert et tu les rassures en déclarant que tu ne t'aviseras pas de recommencer. Le lendemain, quand tu pars pour ton école avec ta valise en bois, tes brodequins désormais trop petits et qui t'obligent à marcher les pieds en dedans, tu es mal en point. Mais tu n'y attaches aucune importance. Tu as l'inestimable satisfaction de te dire que le destin a prouvé qu'il t'accordait le droit de vivre. Quand tu es entré dans cette école, tu étais bon en maths et faible en français. Or, tu ne te passionnes pour une matière que si le professeur qui l'enseigne t'inspire de la sympathie. S'il ne te plaît pas, tu travailles juste ce qu'il faut pour n'avoir pas trop de mauvaises notes. Chaque année, le hasard a voulu que tu aies un meilleur contact avec ton prof de lettres qu'avec ton prof de maths. Délaissant celle-ci, tu as donc travaillé avec ferveur pour faire des progrès en français. Tu y étais d'ailleurs incité par ton désir de pouvoir rédiger de longues et copieuses missives à l'intention de ta mère, de lui exprimer l'amour que tu lui voues. Aussi, à chaque étude, au lieu d'apprendre tes leçons et de faire tes devoirs, tu ouvres dès la première minute ton manuel de littérature et tu t'y plonges. Tu lis et relis les extraits tirés des œuvres des grands écrivains. Et à la fin du premier trimestre, tu en sais par cœur des dizaines de pages. Quand tu t'absorbes dans la lecture, tu plaques tes mains contre tes tempes et ton front, ne laissant qu'une étroite ouverture pour ton regard. Bien souvent, ces textes t'émeuvent tant qu'ils te font monter les larmes aux yeux, et que tu ne veux surtout pas que tes voisins te voient pleurer et se moquent de toi. Tu aimes étudier, acquérir des connaissances, mais tu travailles trop irrégulièrement pour être un bon élève. Parfois, tu sombres dans une crise de cafard, et pendant des jours, tu n'ouvres ni livre ni cahier. De plus, les rituelles mauvaises notes qui te sont infligées par ce professeur d'allemand que tu ne manques jamais de défier te sont un lourd handicap. En raison des engagements qu'on a pris pour toi, tu sais que tu devras rester dans l'armée, du moins un certain nombre d'années. Pourtant, tu te surprends parfois à songer que tu aimerais devenir un écrivain. Mais prenant aussitôt conscience du lieu où tu te trouves, de l'entourage qui est le tien, de l'avenir tout tracé qui t'attend, tu es très vite ramené à la réalité, et pour te punir de caresser un rêve aussi extravagant, tu t'insultes, te couvres de sarcasme. Les journées aux horaires stricts et tout semblable. La routine, l'ennui. Parfois la perspective de quitter l'école une fois passé le bac te semble si lointaine que tu as le sentiment que tu es là pour toujours, que ta vie entière se déroulera entre ces murs, que seule la mort pourra te délivrer. Mais prisonnier de ce temps immobile, tu crains qu'elle ne survienne jamais et souvent tu l'appelles, désires qu'elle surgisse, mette fin à ton existence d'étouffée. À l'inverse, cette mort que des hommes à peine plus âgés que toi ne souhaitent nullement rencontrer, elle les a fauchés en quelques rizières d'Indochine où la guerre fait rage. En effet, de plus en plus souvent, vous apprenez qu'un chef ou un ancien que vous connaissiez va revenir de là-bas dans un cercueil. Et de pareilles nouvelles te glacent des froids. Si toi aussi, un jour, tu devais t'engager, et quelques mois plus tard tomber sous le feu de l'ennemi. Cette mort, il est vrai que tu la redoutes bien plus que tu ne la désires, et tu la redoutes pour une raison précise. La femme du chef t'a révélé qu'il était maladivement jaloux, et que si un jour il vous surprenait, ce serait sans débat de conscience qu'il vous expédierait dans l'autre monde. Mais au lieu de vous pousser à vouloir tout interrompre, cette peur du pire n'a fait que vous lier davantage l'un à l'autre. Tu existes sur deux plans. Tu as de bons amis, de nombreux copains, tu pratiques plusieurs sports et presque chaque dimanche, la rencontre avec la femme du chef ensoleille ta journée. Apparemment, tout va donc bien pour toi. Tu n'as pas de problème de discipline, tu parais bien intégré et en tout point semblable à tous ces jeunes dont tu partages l'existence. Mais parfois, tu es happé par ta réalité interne et là, tout se complique, tout devient confus. Tu découvres que ce que tu penses et désires profondément se situe à l'opposé de celui que tu es pour les autres. Tu vis ce décalage comme un mensonge, une sorte de trahison. Et pour y remédier, tu voudrais tout à la fois étouffer ce que tu es et devenir comme eux. Ceux qui se voient déjà porter des galons d'officier se montrent irréprochables, font du zèle, se prennent terriblement au sérieux. Ceux qui suivent le train-train quotidien acceptent tout sans regimber, semblent ne jamais se poser de problème. Ceux qui ont décroché ne travaillent plus en classe, devront s'engager à 18 ans et qui, démoralisés, dégoûtés de l'armée, sont d'incurables je m'en foutistes. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce texte de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.